Vous écoutez France Culture.
Les pieds sur terre, quartier d'été, en effet, c'est maintenant. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Dans quel sens va la famille? C'est la question que nous posons cette semaine. Nous commençons aujourd'hui au service de psychiatrie de l'hôpital de Montesson, à l'unité d'accueil parents-enfants. C'est le premier volet d'une petite série qui se poursuivra demain, qui a été diffusée pour la première fois le 13 février 2007. À écouter donc ou à réécouter.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
Les pieds sur terre, une émission proposée par Sonia Kronlund.
Je me suis rendu compte que Laureline ne me regardait jamais quand elle prenait le biberon. Alors qu'en général, les bébés, ils regardent fixement leur maman quand ils prennent le biberon. Alors tout de suite, j'ai commencé à imaginer, elle est autiste. Il y a vraiment un problème dans la relation entre elle et moi, et elle le ressent, donc elle me rejette peut-être. C'est vrai qu'au début, je n'arrivais pas à lui parler vraiment, et je me forçais à lui parler. Je lui chante des petites chansons quand je l'habille au sortir du bain, parce que c'est un moment un peu difficile, ça la calme, mais c'est pas très naturel de ma part. Donc est-ce qu'elle ressent ça, que c'est pas très naturel?
C'est vrai que les bébés réagissent de leur manière, hein, aux difficultés de la maman. Mais après, on est là pour ça. Et on voit vraiment l'évolution très positive qu'il y a entre vous et votre bébé. Hein, c'est pour ça qu'on insiste encore et encore sur l'importance du travail qu'on fait pour vous.
Mais je ne sais pas, moi, ce que l'équipe voit.
Je vois que c'est beaucoup plus facile pour vous de vous occuper de votre bébé. C'est beaucoup moins anxiogène, c'est beaucoup moins fatigant. Donc ça, c'est des signes d'une évolution qui est positive.
Peur de tout et d'un rien, d'un pleur ou d'une larme indéchiffrable, sans cesse inquiète sur le qui-vive, sans que cette crainte ne la lâche, sans pouvoir souffler et faire pouce. Si, c'est très bien, mais si ça pouvait s'arrêter, ne serait-ce qu'un ou deux jours, ou même juste une ou deux heures, s'il pouvait se libérer, l'espace mental occupé par ce souci, si elle pouvait cesser de peser cette responsabilité gigantesque, ce poids plus lourd que la vie qu'il faudrait en plus prendre avec légèreté en laissant parler son instinct, la réponse à tout, Google de la maternité, poumon du nourrisson, ah la belle affaire, faites donc des enfants, peur aussi de mal faire ou qu'on lui fasse encore pire au bébé dès qu'on a le dos tourné, peur de ne pas y arriver alors qu'on n'a pas vraiment le choix, de ne pas être normal ou que lui ne le soit pas, qu'il ne dorme pas normalement, qu'il ne mange pas normalement, qu'il pleure bizarrement, que sa courbe de croissance ne suive pas la courbe de croissance officielle, qu'il n'en prenne pas autant qu'il y a écrit sur les boîtes de lait, peur de maternité, de ces jeunes mamans qui souvent ne le sont plus, peur bien commune qu'on se le dise, mais qui parfois prennent un tour plus acide, légèrement plus pathologique selon le contexte familial ou le terrain psychologique et pour lesquelles sont mises en place des unités parents-enfants où se réapprennent les gestes et se renforcent les liens, ainsi que le fameux instinct. Cela se passe à l'hôpital de Montesson avec Marie, Olivier et leur fille Laureline aujourd'hui et demain dans Les Pieds sur Terre.
Je me souviens plus quand est-ce qu'on s'est vu la dernière fois.
En fait, je pense qu'on s'est vu lundi.
C'est le jour où j'étais très énervée.
Oui.
Ah oui, ça faisait suite à l'histoire dans les bois, c'est ça? Bon, d'accord.
Hop, voilà.
Alors en fait, depuis que je suis arrivée, j'avais constaté des dysfonctionnements au sein de l'unité, etc. Qui m'énervaient. Dysfonctionnements dus au sous-effectif. Dysfonctionnement dû aussi au fait qu'il y ait des personnes plus efficaces que d'autres. Voilà. Et ce jour-là, ce samedi-là, ça commençait du matin jusqu'au soir. Il n'y avait pas beaucoup de mamans, il n'y avait que moi, je crois, ou peut-être il y avait une autre maman. Et donc, je me suis fait reprendre du matin jusqu'au soir sur tout. Alors que j'estime que je m'occupe bien de la petite parce que je me lève tôt le matin, je suis une des premières levées. J'attends pas qu'on vienne me réveiller à 9h, je me lève à 7h. Je peux donner le dernier biberon à 11h du soir. Et là, ça a commencé. On m'avait dit, vous pouvez avoir des gants que vous allez mettre, qui vous permettront de laver les biberons sans vous abîmer plus les mains, etc. Et là, le fait de me faire reprendre sur les gants qui traînaient, entre guillemets, dans la biberonnerie et qui n'étaient pas hygiéniques, je me suis dit, non, mais là, ça suffit, quoi. D'autant que moi, je fais très attention à l'hygiène, trop. Par contre, quand je vois des infirmières qui laissent tomber une pipette par terre, qui la nettoient pas et qui vous la rendent, ça, par contre, à mon avis, c'est pas très hygiénique, hein. Et je me suis dit, c'est pas du tout justifié, c'est n'importe quoi. Et on me l'a dit de façon vraiment culpabilisante et désagréable. Et comme ça faisait suite à toute une journée où il y avait eu des choses diverses et variées, etc., j'en ai plus pu au bout d'un moment. Donc, crise de larmes, appel du psychiatre de garde. Je suis partie, je me suis enfermée dans ma chambre. Les vigiles l'ont ouverte. Puis après, c'était tellement insupportable que je suis partie avec mes petites pantoufles dans les bois, quoi. Je me suis dit, ben voilà, ils me prennent pour une petite fille imbécile, ben je réagis comme une petite fille imbécile, je me casse, voilà. Donc je vais aller me cacher, puis je savais bien où aller me cacher, et puis je vais attendre un bon moment, qu'ils me cherchent bien et qu'ils aient bien peur.
J'ai pas l'impression qu'elle ait envie de continuer son biberon, mais peut-être je me trompe. Qu'est-ce que vous en pensez ?
C'est possible, je vais la mettre comme ça.
Je crois qu'elle rejette la tétine, là.
Peut-être qu'il y a un petit roux qui passe pas.
Peut-être.
Quand vous êtes arrivé, vous aviez des difficultés. Vous êtes arrivé parce que c'était difficile le début de vos relations avec votre fille. Donc, on voulait savoir en fait comment on pouvait vous aider par rapport aux difficultés que vous aviez.
Alors, moi, quand. Ça fait plusieurs années que je fais des crises de panique à répétition, donc je ne suis pas quelqu'un de très fort psychologiquement. La grossesse n'est pas super bien passée, il y avait beaucoup d'énervement entre mon compagnon et moi. Les derniers mois, ça a été de pire en pire. La petite est née à 35 semaines, donc bien avant terme. J'ai énormément culpabilisé, pourquoi elle était née trop tôt, qu'est-ce qui s'était passé, qu'est-ce que j'avais mal fait. Ensuite, je me suis dit, ça va être de la souffrance parce que je ne comprenais pas comment un bébé de 35 semaines était viable. Donc, ça va être de la souffrance. Quand j'étais à la maternité, à chaque fois que je pensais à elle, ça me faisait souffrir, ça me faisait pleurer. Je n'osais pas la toucher, j'avais peur de lui faire mal. Mais par ailleurs, je l'aimais, mais tout était horriblement douloureux. Je me rends compte maintenant à quel point c'était horrible. Elle serait née handicapée ou trisomique, je crois que ça aurait pas pu être pire. Et puis voilà, j'ai l'impression d'avoir toujours été entourée d'un monde de souffrance, mes parents qui se bagarraient, mon père qui était malade, ma mère ensuite qui a été malade, mon frère qui était malade aussi. Moi, je pense que j'étais à l'adolescente, je pense que j'étais dépressive, mais je ne me rendais pas compte. Donc tout, ça a toujours été de la souffrance. Ma seule référence, c'est la souffrance. Donc là, comment elle n'allait pas souffrir ? Elle était née à 35 semaines.
Vous pensez que vous avez besoin toujours d'essayer de l'aider à faire un petit roux ? C'est quoi ?
Faire quelque chose. Là, elle se recroqueville.
Alors peut-être faire tout doux maintenant ?
Ouais.
Hein ? D'essayer qu'elle trouve un peu de tranquillité avec sa maman, là, bien.
Elle a bu un peu, elle a repris un peu.
Oui,
ouais, elle a bu un petit peu. Enfin bon, elle a recraché quand même beaucoup.
Pas tant que ça, je pense pas.
Puis en plus, justement, au début, tout était difficile. Elle était dans sa petite couveuse, elle bougeait pas du tout. Ils arrivaient pas à l'alimenter, elle était gavée. Alors ils me disaient tous, mais elle est pas mal. Il y a des bébés bien plus... Elle était pas en danger. C'était dur quand même. Donc moi, quand je suis arrivée ici, j'étais très contente. Parce qu'en plus, on était en plein déménagement. Il n'y avait aucun des deux appartements habitables. Donc la petite, elle pouvait avoir un endroit où être. Moi, je pouvais être soignée. On pouvait être toutes les deux, passer ce cap difficile. Et donc la première semaine, quand je suis arrivée, j'étais ravie. Et ensuite, au fur et à mesure, j'ai bien vu qu'il y avait plein de dysfonctionnements. Et donc ça m'angoissait. Quand je disais les choses, je les disais doucement et gentiment, mais parfois on me répondait avec beaucoup d'agressivité et très peu de psychologie.
Vous disiez tout à l'heure que déjà la grossesse était très difficile.
Elle n'était pas difficile pour moi parce que moi j'ai été un peu malade les premiers, enfin un peu malade. J'ai eu des petites nausées sans vomissement les premiers mois. Bon, pas très bien, mais comme la moyenne des femmes, quoi. Ensuite le deuxième trimestre bien, le troisième trimestre un peu fatiguée. Mais mon compagnon ne comprenait pas que j'étais quand même pas dans un état normal, on va dire. Donc on faisait du vélo avant tous les deux. Bon, lui, il est très sportif, moi, beaucoup moins. Bon. Et donc, au début, j'arrivais à faire mes 15-16 km. Le médecin m'avait dit, il n'y a pas de souci. Mais au fur et à mesure du temps, ben, j'arrivais plus à faire mes 15-16 km. Je faisais plus que 8 km. Et puis, j'allais plus du tout à la même vitesse. Et lui, il me houspillait, un peu comme ici. Et il me disait mais t'es pas malade, être enceinte c'est pas une maladie, t'as vu à quelle vitesse tu vas. Donc ça c'était, j'avais beau lui expliquer oui mais je suis quand même pas dans un état de parfaite santé, c'est normal, c'est déjà bien que je puisse continuer à faire du vélo, etc. Ensuite au sixième mois, le gynécologue que je voyais et la sage-femme que j'ai commencé à voir à l'hôpital m'ont dit qu'il fallait que je commence à me calmer, parce que avec mon métier déjà de libraire, je faisais trop de manutention. Et mon compagnon était d'accord pour que je me ménage dans mon travail. Mais par contre, il me demandait de faire des cartons de déménagement pendant la semaine. Mais quand je lui parlais d'embaucher une femme de ménage, il ne voulait pas. Donc c'était crise de larmes, colère... je ressentais des contractions à ce moment-là.
Donc déjà, pendant la grossesse, les relations entre vous étaient tendues, étaient assez difficiles.
Difficile, oui. Mais finalement, si on y réfléchit, on a toujours eu des relations extrêmement conflictuelles. Pourquoi ça serait arrêté pendant la grossesse? Ça ne s'est pas arrêté pendant la grossesse. Pour lui, je suis enceinte, mais je dois pouvoir tout faire. Tout continuer, comme avant, pareil. Donc, on a essayé de parler, mais dialogue de sourds, pas possible. Donc, c'était terrible. Les dernières semaines, c'était terrible. C'était terrible. C'était crise sur crise. Et puis voilà, la petite est venue trop tôt. Et je me demande si c'est pas un peu de notre faute à tous les deux.
Arriver à gérer alors votre vie avec un bébé ici à l'unité, comment ça se passe? Comment ça a évolué par rapport aux difficultés que vous décriviez, qu'il y avait au début, les difficultés d'être avec votre fille? Comment ça a évolué?
Quand je suis arrivée ici, la manipuler, la changer, j'avais encore un petit peu peur, surtout lui donner le bain. Mais le pire, c'était les biberons, parce que les biberons, elle régurgitait énormément et elle avait l'air d'avoir mal. Et de voir que tout ce qui avait été donné, ça repartait, c'était très douloureux. Ensuite, il s'est trouvé qu'à la fois, moi, j'étais plus à l'aise avec elle, j'étais moins dans un rapport d'anxiété, et elle régurgitait moins. Donc du coup, ça commençait à être beaucoup plus facile, et puis même plus dans le plaisir. Maintenant, j'ai l'impression qu'elle me fait les premiers sourires. Quand je vais la voir le matin, je me mets au-dessus de son landau, et elle sourit. Et j'arrive aussi plus à lui parler, alors qu'avant, j'arrivais pas à lui parler. J'arrive à lui parler, je lui chante des petites chansons. Donc ça, à ce niveau-là, ça va bien mieux.
Vous disiez que la vie avec un enfant vous paraissait quelque chose de très difficile. Pour vous, c'était insupportable de voir des gens dans la rue avec des enfants.
Ben oui, ça, je sais pas pourquoi, mais effectivement, quand je suis sortie de la maternité, je sais pas, ça m'était extrêmement pénible de voir des parents avec des enfants, ou de voir des femmes enceintes, parce qu'elles, elles avaient des très gros ventres que j'ai jamais eu moi. Elles y arrivaient, et moi finalement c'était un échec, quoi. Elle était sortie trop tôt. Et je l'avais faite, cette petite, parce qu'il y avait l'échec de la thèse que j'avais pas réussi à finir, Donc ben, on allait arriver à pondre quelque chose, on allait pondre un bébé, ben, finalement j'étais même pas capable de le pondre et de le mener jusqu'au bout ce bébé. Comme la thèse, pareil. Donc finalement, toujours dans l'échec quoi.
Vous avez le sentiment d'échec, de quelque chose qui n'est pas achevé, d'une perte.
Oui. Pas abouti, pas abouti, pas terminé. Pendant longtemps, savoir qu'elle était née le 4 novembre alors qu'elle devait naître autour du 12-13 décembre, pour moi, c'était... Je pouvais même pas voir le petit papier qu'il y avait sur la couveuse. Née le 4 novembre. C'était pas possible. C'était pas le 4 novembre qu'elle devait naître. C'était au mois de décembre. Puis j'ai peur qu'elle en ait des séquelles toute sa vie. Enfin, je sais pas. Mon frère, il est né prématuré. Il pesait 1,7 kg. Tous les jours, on se demandait s'il allait survivre. Maintenant, c'est pas un grand gaillard, il fait 1m73, il arrive à peine à dépasser les 50 kilos. Il est toujours malade.
Mais par rapport à Laureline, les médecins ne se sont jamais posé la question. Si elle allait survivre, il n'y avait, avait pas vraiment de maladie, il n'y avait rien.
Je sais, mais pour moi, c'est quand même, malgré tout, comment un bébé à 35 semaines peut être viable. Mais maintenant, je suis un petit peu moins là-dedans. Je suis un petit peu moins là-dedans. Et puis, il y a un truc qui m'a inquiété aussi, une infirmière qui n'a pas dit ça du tout dans le mauvais sens. Elle a dit, mais Laureline, il faut regarder ta maman. Et je me suis rendu compte que Laureline ne me regardait jamais quand elle prenait le biberon. Alors qu'en général, les bébés, ils regardent fixement leur maman quand ils prennent le biberon. Elle ne me regarde pas du tout, elle regarde ailleurs.
En dehors du biberon, comment ça se passe?
Le bain, parfois, elle me regarde. Le bain, ouais. Le matin, maintenant, quand je vais lui dire bonjour, elle me regarde, me sourit. Mais elle ne me regarde pas beaucoup. Alors, tout de suite, j'ai commencé à imaginer. Elle est autiste. Il y a vraiment un problème dans la relation entre elle et moi, et elle le ressent. Donc elle me rejette peut-être. C'est vrai qu'au début, je n'arrivais pas à lui parler vraiment. Et je me forçais à lui parler. Je lui chante des petites chansons quand je l'habille au sortir du bain, parce que c'est un moment un peu difficile, ça la calme. Mais c'est pas très naturel de ma part. Je m'entends chanter la chanson, alors que ça devrait sortir naturellement et que... Donc, est-ce qu'elle ressent ça, que c'est pas très naturel?
C'est vrai que les bébés réagissent de leur manière, hein, aux difficultés de la maman. Mais après, on est là pour ça. Et on voit vraiment l'évolution très positive qu'il y a entre vous et votre bébé. Hein, c'est pour ça qu'on insiste encore et encore sur l'importance du travail qu'on fait pour vous.
Hein. Qui voit la relation positive?
L'équipe, hein, on en parle.
Mais je sais pas, moi, ce que l'équipe voit.
Je vois que c'est beaucoup plus facile pour vous de vous occuper de votre bébé. C'est beaucoup moins anxiogène, c'est beaucoup moins fatigant. Donc ça, c'est des signes d'une évolution qui est positive.
Les bains, par exemple, sont beaucoup plus harmonieux. Quand vous donnez le bain, au début, vous me disiez « j'ai trop peur, je sais pas si elle va pas glisser dans l'eau, je sais pas comment la tenir ». C'est plus du tout le cas aujourd'hui.
Ouais, mais ça, à mon avis, c'est l'anxiété de toute jeune maman qui sait pas manipuler un bébé. On n'a pas les gestes, hein. Donc maintenant, je les ai plus, etc. Mais moi, je relie pas ça à moins d'anxiété. Mais je relie plutôt ça à maintenant, j'ai les gestes.
Ce qui fait que vous avez moins d'anxiété. En même temps,
ça se tient.
Parler du fait que je vois le papa de Laureline de nouveau aujourd'hui. Vous voulez toujours pas le voir?
Non, je ne veux toujours pas le voir. Bah, là, dans ma tête, je me vois très bien aller dans l'appartement que j'ai vu qu'une fois, l'appartement nouveau, l'appartement où on doit emménager. Je me vois très bien avec Laureline. Je m'imagine en train de lui donner le biberon. Je me dis qu'il faudrait que je m'achète un fauteuil comme ça. La lune, je l'ai commandée. Je suis en train de commander le chaud biberon, machin, etc. Je me vois très bien dans l'appartement, mais il n'y est pas. Et donc, là, ce que j'ai fait, je suis allée voir l'assistante sociale parce que j'avais des problèmes avec ma mutuelle. Puis, par la même occasion, je lui ai demandé... bon, je sais que j'ai pas de droit aux allocations familiales parce que on prend en compte, bien que nous ne soyons pas mariés, nos deux revenus. Le mien est tout petit, je travaille à temps partiel, tout petit salaire. Le sien est assez important, j'ai droit à rien. Mais je lui ai dit, maintenant, si on se sépare, qu'est-ce qui se passe? Et donc elle m'a expliqué toutes les modalités, si on se sépare pour que j'ai des aides.
Pour vous séparer, il faut vous rencontrer d'abord? Comment elle saura que vous ne voulez plus être avec lui?
Je lui laisse un petit mot. Maintenant, ce qui me fait peur, sincèrement, c'est que je lui ai demandé des renseignements. Je lui ai dit, qu'est-ce qui se passe au niveau de l'enfant? Tant qu'il n'y a pas de jugement, qui garde l'enfant? Je ne sais pas. Puis après, je me dis, moi, vu mes moyens, je n'aurai droit qu'à l'assistance juridique gratuite. Est-ce que lui, qui a un gros salaire et des parents qui sont très aisés, je pense qu'il aura droit à un super avocat et que donc son avocat mettrait en avant le fait que moi, j'ai des crises de panique depuis longtemps, que je pourrais très bien en avoir une pendant que je m'occupe de la petite, que j'ai fait un passage par un hôpital psychiatrique. Et le mien, il peut très bien dire qu'il a un handicap au niveau du bras et qu'il y a plein de gestes qu'il ne peut pas faire avec la petite. Donc je suis en train de penser à tout ça.
On va y reparler, parce que c'est vrai que c'est la première fois où vous évoquez clairement le désir de vous en séparer du papa de Laureline.
Quand j'entends sa voix dans les couloirs, là je vais entendre sa voix dans les couloirs, je peux pas, quoi, c'est un rejet total.
Pourquoi maintenant ça devient tellement insupportable?
Parce que j'arrive pas à lui pardonner qu'il soit comporté vraiment très mal avec moi pendant la grossesse. Ce qui le rachète à mes yeux, c'est que je pense qu'il a été extrêmement stressé et qu'il réagissait mal parce qu'il était extrêmement stressé et non pas parce que c'était un salaud. Ensuite, on a toujours eu des relations conflictuelles, bon, d'accord. Mais je passais mon temps à lui dire « je te quitte » et puis je revenais parce que je pouvais pas vivre avec lui, mais je pouvais pas vivre sans lui non plus. Maintenant, après ce qui s'est passé la nuit du réveillon, où il a pété les plombs, je peux plus, quoi. Je peux plus, quoi. C'est pas possible, quoi. Là, à ce niveau-là, c'est pas de la colère, c'est pas quand j'entends sa voix, c'est du... Je sais pas, j'en vomirais presque.
C'est votre vie, donc je pourrais pas lui dire « Monsieur, votre compagne souhaite se séparer de vous. » C'est trop difficile de me demander ça.
Bien, c'est pas votre rôle non plus. Hein.
Qu'est-ce que vous faites ce week-end?
Rien.
Est-ce que vous avez envie de sortir un peu en permission, vous promener? Ça fait quand même longtemps que vous êtes ici. Toutes les membres partent en permission. Est-ce que vous avez envie de sortir un peu en après-midi?
Je sais pas. J'ose pas trop la laisser, quoi. J'ose pas trop la laisser trop longtemps.
Je pense que c'est important de sortir un petit peu pour vous aussi.
Là, il y a de plus en plus de bébés, toujours le même nombre d'infirmières. À mon avis, ça, si c'est pour que Laureline ait son biberon de 2h à 4h l'après-midi, pas sûr que c'est une bonne idée. S'il y a vraiment trois bébés qui restent, je suis pas sûre que ça sera gérable.
On est là pour ça.
Si on me dit c'est une telle et une telle, je peux partir tranquille. Si on me dit c'est une telle et une telle, je reste. Je crois que la petite, elle a besoin de quelque chose, je sais pas quoi, mais... Ça va pas fort, là.
La plus belle chose au monde, la naissance d'un enfant, la joie qui vous inonde, le bonheur d'être maman, la plus... plus belle chose au monde, la naissance d'un enfant, la joie qui vous inonde, quel précieux moment. Mais c'est ce que je fais, je pousse, je fais que ça pousser. Mais c'est ce que je fais, je veux plus de bébé, rentrons à la maison. Mais c'est ce que je fais, je pousse, je fais que ça pousser. J'ai mal à taper le ventre contre le mur, j'ai changé d'avis, je veux la piqûre. Plus belle chose au monde, la naissance d'un enfant, la joie qui vous inonde, le bonheur d'être maman. Ce petit bout de chou en herbe qui cogne juste pour nous dire à coups de pied acerbe, c'est l'heure, je dois sortir. Mais c'est ce que je fais, je pousse, je fais que ça pousser. Mais c'est ce que je fais, je veux plus de bébé, rentrons à la maison. Mais c'est ce que je fais, je pousse, je fais que ça pousser. Mais c'est ce que je fais, je fais exploser. Tu changes de plus, ça pousser.
Slavova, à Véronique Lafont, à l'infirmière Sabine Fontimpe, à Marie, à son mari, à Olivier et à la petite Laureline. Vos réactions, vos commentaires, vos suggestions, tout ce que vous voulez nous dire, tout ce que vous voulez savoir, c'est sur notre site franceculture.fr, à la page des Pieds sur Terre. Je signale que nous cherchons des histoires qui peuvent vous être arrivées, qui soient soit étonnantes, soit surprenantes, des aventures, pour une nouvelle formule des Pieds sur Terre que vous pourrez entendre à partir du mois de septembre. Donc si vous êtes arrivé quelque chose d'étonnant, de surprenant, d'amusant, d'intéressant, n'hésitez pas à nous envoyer un petit mot sur le site de France Culture à la page des Pieds sur Terre. En attendant, je vous dis à demain dans les Pieds sur Terre, quartier d'été, et bon après-midi sur France Culture.